le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Et cette semaine, dans les Clés de l'écho, encore un nouveau chroniqueur, c'est Léo Malherbe. Bonjour Léo.
Bonjour.
Alors tu es maître de conférences en économie à l'université de Picardie Jules Verne, mais tu étais passé à Bordeaux pour faire ta thèse il y a peu. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de l'inflation. Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'inflation et comment est-ce qu'on la mesure, Léo ?
Le terme d'inflation, il désigne la hausse générale et durable des prix. Autrement dit, quand il y a de l'inflation, on peut, avec une quantité de monnaie donnée, se procurer une quantité plus faible de biens et services. Cependant, il est assez difficile de donner une tendance globale de l'évolution des prix dans une économie, car ces évolutions ne sont pas homogènes. Donc, par exemple, dans une situation sans inflation, donc sans hausse générale et durable des prix, on peut tout à fait avoir certains prix qui augmentent si, dans le même temps, d'autres prix ont baissé. Donc, en matière de mesure de l'inflation, on utilise en France un indice synthétique, l'indice des prix à la consommation, ou IPC pour les intimes, et on étudie, ou plutôt l'INSEE étudie chaque mois, la variation des prix des biens et services consommés par les ménages. Pour mesurer l'évolution des prix à la consommation, on mesure en fait la variation des prix de plusieurs groupes de produits, donc par exemple l'alimentation, l'électricité, les loisirs, la culture, etc. Et on applique une certaine pondération à chaque groupe de produits en fonction de son poids dans le panier moyen du consommateur. Donc la composition du panier moyen, c'est-à-dire finalement le poids de chaque groupe de produits dans ce panier de consommation, est assez importante. En 2022, par exemple, l'alimentation et le logement, ça représente à peu près une quinzaine de pourcents du panier moyen chacun. Mais faut bien avoir en tête que cette pondération, c'est une sorte de moyenne. Pour certains ménages, ces postes de dépenses vont représenter à eux seuls plus de la moitié de leurs dépenses, par exemple. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que selon la composition de son propre panier de consommation, l'inflation que l'on connaît individuellement, elle peut différer assez largement de l'inflation telle qu'on va la mesurer par l'IPC. Donc, par exemple, si les dépenses d'alimentation elles représentent une plus grande part de mon budget que dans le panier moyen qui est retenu par l'INSEE, et que dans le même temps, les prix de l'alimentaire augmentent plus vite que ceux des autres groupes de produits, moi je vais ressentir une inflation qui va être plus forte que celle mesurée par l'IPC. Et juste pour finir là-dessus, pour être assez honnête et remercier l'INSEE, on pourrait dire que l'INSEE répond quand même en partie à cette limite en mettant à disposition un simulateur d'indice des prix qui est personnalisé, dans lequel on peut pondérer soi-même le poids de chaque groupe de produits dans le panier de consommation.
Alors une fois qu'on a dit tout ça, aujourd'hui, l'inflation en France, à quelle hauteur est-ce qu'on peut la voir, la décrire, Léo ?
Alors l'INSEE, elle estime que les prix à la consommation, tels que mesurés par l'évolution de l'IPC, ont augmenté de 5,9% en France entre août 2021 et août 2022. C'est les dernières données dont on dispose à l'heure actuelle. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête ici, c'est qu'il y a de grandes disparités selon les groupes de produits. Donc, sur cette année écoulée, si on regarde par exemple les prix de l'énergie, on constate qu'ils ont augmenté de 22,7%. Mais d'autres catégories connaissent une hausse beaucoup plus mesurée, voire même une baisse. On peut mentionner par exemple les produits de santé, dont les prix ont baissé de 1,3% sur l'année écoulée. Maintenant, si on essaye de comparer cette inflation française à celle des autres pays de la zone euro, on va d'ailleurs utiliser un autre indicateur. Celui-ci s'appelle l'IPCH, donc l'indice des prix à la consommation harmonisé. Et selon cette autre convention de calcul, on constate, c'est qu'on n'a pas les mêmes chiffres de l'inflation. L'inflation française, selon l'IPCH, elle est de 6,5% et non pas de 5,9%. Et au passage, on voit ici d'ailleurs l'importance du choix de l'indicateur, du panier de biens retenus, de la convention de calcul, etc. etc. Bref, gardons en tête ce chiffre de 6,5% d'inflation pour la France. Et on peut faire quelques remarques donc vis-à-vis de nos voisins. On constate d'abord que ces 6,5%, ils sont assez notablement en dessous de l'inflation qu'a connue la zone euro dans son ensemble, qui est de 9,1% sur un an. Et puis, pour donner quelques chiffres pour nos voisins, l'inflation dépasse les 10% en Espagne, en Belgique, en Grèce, aux Pays-Bas également. Et puis, elle dépasse même les 20% dans les pays baltes, donc Lettonie, Lituanie et Estonie. Donc, sur ce point-là, les données dont on dispose actuellement, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que l'inflation n'est vraiment pas une spécificité française. C'est un phénomène qu'on observe également, mais même plus vigoureusement chez nos voisins européens, mais aussi à l'échelle mondiale. Pour finir, on peut dire qu'aux États-Unis, par exemple, l'inflation annuelle, elle est de 8,3% sur la même période, donc entre août 2021 et août 2022.
Alors maintenant qu'on sait tout ça, comment on explique l'inflation en économie, Léo ?
Alors il y a un grand nombre d'explications théoriques de l'inflation. On n'a pas le temps d'ailleurs d'en faire une liste exhaustive, mais la plus connue, qui n'est pas d'ailleurs pour autant la plus vraie, mais la plus connue des théories de l'inflation, c'est la théorie quantitative de la monnaie. Et cette théorie, elle considère que c'est la hausse de la quantité de monnaie en circulation qui est à l'origine de l'inflation. Donc les économistes mainstream modernes, ils ont conservé, si vous voulez, cette intuition de la théorie quantitative de la monnaie, mais ils concèdent, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelques amendements, on va dire, à la théorie quantitative. Donc ils concèdent qu'en situation de sous-emploi, la création monétaire, elle peut avoir un effet sur la production, sur l'activité, avant d'avoir un effet sur les prix. Donc ils considèrent en quelque sorte que l'inflation est d'origine monétaire, mais qu'elle n'émerge normalement qu'à l'approche du taux de chômage dit naturel, c'est-à-dire le moment où l'économie risque d'entrer en surchauffe, c'est-à-dire quand il y a un excès de demande par rapport à l'offre. Juste pour finir, un dernier mot ici, en fait, les économistes mainstream, ils considèrent qu'il existe un arbitrage qui est possible entre chômage et inflation. Donc pour réduire l'inflation, il faudrait d'une certaine manière augmenter le chômage et donc réduire l'activité. Et c'est ce qu'affirme sans détour Jérôme Powell, le président de la Banque centrale des États-Unis, la Fed.
Alors justement, quand on parle de ces questions monétaires, on a un acteur qui arrive, c'est les banques centrales. Comment est-ce que les banques centrales elles réagissent aujourd'hui à l'inflation ?
Alors les banques centrales, de par le monde, c'est un mouvement quasi général à l'échelle mondiale, à l'exception, je pense, de la Chine. Elles ont toutes entamé une remontée des taux d'intérêt. Quelle est la logique sous-jacente ? L'idée, c'est de freiner le crédit bancaire grâce à cette hausse des taux d'intérêt et par extension de freiner l'investissement et la consommation, c'est-à-dire de permettre une contraction de la demande de biens et services qui a vocation, si vous voulez, à mettre fin à l'augmentation des prix, justement, comme je le disais tout à l'heure, grâce à un ralentissement de l'activité. Donc, pour le cas européen, la Banque Centrale Européenne, elle a donc augmenté son taux directeur. Je rappelle que celui-ci était de 0% depuis 2016, il est passé à 0,5% en juillet, puis à 1,25% en septembre. Donc on est sur une hausse de 125 points de base, qui est assez similaire à ce qui a été fait outre-Manche par la Banque d'Angleterre, qui a une hausse de 150 points de base de son côté. Mais ça reste assez nettement inférieur à ce qui a été mis en œuvre par la Fed aux États-Unis, où là, la hausse des taux d'intérêt est de l'ordre de 225 points de base. Donc on peut maintenant s'interroger finalement sur le bien fondé de cette hausse des taux, et plus particulièrement dans le cas européen, où contrairement aux États-Unis sous l'administration Biden, il n'y a pas eu de relance budgétaire massive après la crise du Covid qui aurait pu être à l'origine d'une surchauffe tirée par la demande. Donc, l'inflation actuelle, et d'ailleurs paradoxalement la Banque Centrale Européenne le reconnaît assez clairement, cette inflation, elle est tirée par les conditions d'offre et non par les conditions de demande. Donc, en l'occurrence, l'inflation actuelle, elle vient plutôt d'une forte hausse des prix de l'énergie, qu'on peut notamment mettre en lien avec la guerre en Ukraine. Elle vient aussi de problèmes d'approvisionnement, donc d'une augmentation des coûts de transport. Et ça, certains le mettent en lien plutôt avec la politique zéro Covid qui est menée en Chine, etc. Le point ici, c'est que dans ces conditions, la Banque Centrale Européenne, elle est en réalité assez désarmée pour faire face à l'inflation en cherchant à freiner la demande. On peut voir quand même une autre explication à cette politique de hausse de taux qui est menée par la Banque Centrale Européenne. Dans la mesure où justement l'inflation elle est tirée par la hausse des prix des produits importés, la hausse des taux d'intérêt elle peut être vue comme un moyen d'apprécier le taux de change de l'euro, c'est-à-dire d'augmenter la valeur de l'euro comparativement à d'autres monnaies et donc, de ce fait, de réduire le coût des importations. Donc cette explication-là, elle a davantage de sens, si je peux me permettre, sur le plan macroéconomique, mais elle se heurte à un autre problème, c'est-à-dire que en ce moment, tous les pays sont en train de rehausser leurs taux en même temps et en l'absence de toute coordination. Donc, ce qui se passe, c'est que les hausses de taux simultanées et non coordonnées n'ont finalement pas ou peu d'effet sur le taux de change. Par contre, le risque de ralentissement de l'activité, du chômage, eux, ils demeurent. Donc pour conclure sur les réactions des banques centrales, on peut dire que finalement, la Banque Centrale Européenne n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, dans la mesure où malgré son impuissance pour contrer l'inflation actuelle, comme j'ai essayé de l'expliquer rapidement, les attentes sociales, politiques à son endroit sont elles complètement disproportionnées. Tout le monde est en train de regarder la BCE et d'essayer de voir, de comprendre qu'est-ce que la BCE va faire pour arrêter l'inflation. Donc elle est obligée d'agir. Si elle n'avait rien fait, donc si elle avait maintenu les taux zéro, il y avait un risque d'envolement des anticipations d'inflation, c'est-à-dire des anticipations d'inflation qui s'ancreraient à un niveau assez élevé, et ça serait dommageable pour l'économie européenne à moyen long terme. Si elle avait mis en place, à l'inverse, une très forte hausse des taux, elle aurait indubitablement fait entrer en crise la zone euro sans pour autant mettre fin à l'inflation. Donc elle n'avait finalement qu'une seule option. Il ne lui restait plus qu'à mettre en œuvre une hausse modérée des taux d'intérêt, même si cette dernière hausse, donc de 75 points de base, la plus forte de sa courte histoire, a finalement peu de chances d'avoir les effets escomptés.
Merci beaucoup, Léo, pour cette chronique des Clés de l'écho. Spectre.